Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, avant de prononcer quelques mots pour le cinquième dimanche après l'Épiphanie, je commande bien sûr à vos charitables prières l'âme, le repos de l'âme de Mgr Williamson, dont vous avez appris le décès récent le 29 janvier. Nous ne savons pas encore la date et le lieu de ses obsèques en Angleterre. Ce sera simplement durant le cours du mois de février. Et là, je pense encore beaucoup à plusieurs autorisations gouvernementales, locales, pour ces obsèques. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous en avertir. Prions bien pour le repos de son âme, aussi pour toute notre fidélité catholique. Nous sommes, comme je le disais hier, je célébrais une messe à Montaigu, chez moi, en Auvergne. Nous sommes orphelins d'un grand évêque. Grâce à Dieu, il n'a pas laissé cette petite portion de l'Église sans ressources et sans évêque. Remercions le bon Dieu d'avoir suscité dans sa prudence cet œil avisé pour que nos âmes soient toujours, non pas orphelines d'évêques, mais bien assurées de cette succession pour le bien de l'Église, des âmes. Eh bien, chers frères, je voudrais vous parler ce matin de l'épître que saint Paul adresse aux fidèles, les Colossiens. Il y a beaucoup de conseils de ce père que fut saint Paul, l'apôtre des nations, des gentils, des païens, qu'il va convertir par foison, on pourrait dire, au Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces conseils qu'il donne aux Colossiens, il y a des perles à retenir. Je voudrais vous lire le début de l'épître pour nous attacher à un ou deux mots. « Mes frères, dit-il, comme élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de miséricorde, de bonté, d'humilité, de modestie, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant mutuellement si quelqu'un a un sujet de plainte contre un autre. » Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus tout cela est la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, soit dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Et mes chers frères, bien sûr, c'est la charité, l'essentiel de notre vie, puisque Dieu est charité. Et pour arriver à la perfection de la charité, il y a beaucoup de vertus à pratiquer. Et une vertu qui n'est pas facile, il faut le dire, notre expérience est là, c'est le pardon des offenses. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, sur la montagne, chapitre 5 de saint Matthieu, nous a révélé la prière par excellence qu'est le Pater Noster. Et la cinquième demande du Pater Noster, c'est le pardon des offenses. Et saint Paul relève ce pardon des offenses. Comme le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et il est bon d'insister sur ce point, car encore une fois, ce n'est pas facile. Parce que nous avons été affectés par le péché originel, retiré par le baptême, bien évidemment, mais nous avons toujours ces fragilités, ces blessures du péché originel. Chez les païens, une offense méritait la mort. Quelque offense que ce soit, la mort pour une offense. Le bon Dieu, dans l'Ancien Testament, va atténuer cette pour l'affront reçu, il va diminuer la sentence. Il dira, c'est dans la Sainte Écriture, œil pour œil, dent pour dent. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, va diminuer cet œil pour œil, dent pour dent. Il va dire pardonner. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, éduque son peuple pour qu'on ne soit pas comme des païens qui, pour une offense, la réponse, c'est la mort. Œil pour œil, dent pour dent. Donc il y a une égalité. Tu m'as arraché mon œil, je t'arrache ton œil. Tu m'as arraché une dent, je ne t'arrache pas toutes les dents. Donc une égalité. C'est pas fameux, mais c'est déjà ça par rapport au paganisme. Notre Seigneur Jésus-Christ va beaucoup plus loin. Pardonner. Pardonner. Notre Seigneur Jésus-Christ montre bien dans l'Évangile et dans sa vie personnelle, sur le Dieu de la croix, il pardonne aux bourreaux, il pardonne aux pécheurs, mais comme c'est difficile. Heureusement, dirais-je, que nous avons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, car si on n'avait pas cet exemple, si on n'avait que la parole de Jésus-Christ, nous ne serions pas sensibles à cette parole qu'il a prononcée pourtant. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il l'a fait, il a pardonné, et il nous pardonne. Et il a inventé, on peut lire le mot, inventé, ce sacrement du pardon des offenses, le sacrement de pénitence. Il nous pardonne nos offenses. Nous nous agenouillons auprès du prêtre, nous confessons nos péchés, quels qu'ils soient, quelle que soit la gravité de nos péchés, et nous nous relevons absous de nos fautes. Quelle merveille! Il n'y a que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour inventer, pour réaliser une chose telle que celle-là, le pardon des offenses. Nous ne sommes plus pécheurs, alors que nous sommes arrivés confessionnels pécheurs, et nous nous relevons sanctifiés. Le bon Dieu a pardonné nos offenses. Nous sommes délivrés de toutes nos fautes, pardonnés que nous sommes de nos péchés. Et aussi, notre Seigneur Jésus-Christ ne reste pas là. Il faut pardonner nous aussi. Imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous lire une très belle histoire racontée par le père Garrigou Lagrange dans un de ses ouvrages, L'éternelle vie et la profondeur de l'âme. C'est une histoire dont il a été témoin. Il raconte cela. J'ai connu, dit-il, un jeune Israélite, fils d'un banquier de Vienne en Autriche, qui, vers l'âge de 25 ans, au moment de se décider à faire un procès au plus grand adversaire de sa famille, procès qui l'aurait enrichi, se rappela cette parole du pater qu'il avait entendu quelquefois réciter: « Pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il se dit: « Mais si, au lieu de faire ce procès qui m'enrichirait, je pardonnais. » Et il pardonna complètement, en renonçant pour toujours à faire ce procès. Au même moment, il reçut la foi à tout l'Évangile. Il n'était pas baptisé encore, un jeune Israélite. Au même moment, il reçut la foi à tout l'Évangile. Il fit l'ascension de cette montagne de lumière qu'est l'Évangile, par qui ce sentier qui était la parole du Pater. Dans la suite, il devint prêtre, religieux dominicain. Il mourut vers l'âge de 90 ans. Il n'eut rien de particulièrement saillant dans sa vie, mais son âme resta au niveau où elle avait été élevée au moment de son admirable conversion. Elle se rapprocha insensiblement de l'éternelle jeunesse qu'est la vie du ciel. La conclusion, après cette histoire, que donne maintenant le père Garrigou Lagrange, nous devons être particulièrement attentifs à certains actes que le bon Dieu peut parfois nous demander. Il arrive qu'un grand acte de dévouement décide ainsi non seulement de toute notre vie spirituelle ici-bas, mais celle de l'éternité. On juge d'une chaîne de montagnes par ses sommets. Ainsi Dieu juge la vie des justes. Vous voyez ? Fin de citation de cette belle histoire d'une conversion. Dans un moment crucial, je fais procès, je me venge ou je pardonne. Il avait entendu le Pater Noster, mais c'était encore, je dirais, intellectuel, cérébral, livresque. Ce n'était pas dans sa vie. Il connaissait, il avait entendu parler de cette prière. Mais cette prière n'avait pas encore atteint son âme. Mais le bon Dieu, à travers cette difficulté de taille que ce jeune homme a eu en face de lui, que faire? Un chemin à deux branches, une patte de doigt, que vais-je faire? Et c'est là la grâce actuelle du bon Dieu. Le bon Dieu l'a éclairé. Et dans, il était dans son intelligence déjà. Il connaissait le paternoster, mais c'est la volonté. Et la conversion, c'est dans la volonté. Ce n'est pas dans l'intelligence, c'est dans la volonté. Que vais-je faire par rapport à cette difficulté? Pardonner ou me venger? Le père Lacordaire dit sur le pardon des offenses une très belle phrase très courte. Voulez-vous être satisfait un moment? Vengez-vous. Voulez-vous être satisfait longtemps? Pardonnez. Il y a de quoi méditer. Hein, la phrase de Jésus-Christ, voyez, qui soulève les âmes. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme c'est difficile. Dans notre mémoire, certainement, revient, pendant que je vous prêche, que je vous parle, des événements dans votre vie qui vous disent, qui vous rappellent tel acte d'une personne qui vous a fait une difficulté, pour laquelle vous avez encore du ressentiment. Pardonnons, pardonnons. Et je pense qu'il faut bien distinguer entre le pardon et l'oubli. L'oubli, c'est difficile, parce que l'oubli fait appel à la mémoire. La mémoire est quelque chose de sensible dans la personne humaine. Donc il y a des lieux, des événements, des personnes, des actes. Par conséquent, on voit les personnes qui ont pu nous faire des ennuis, qui nous ont blessés. Alors l'oubli, c'est difficile, c'est compliqué à oublier. Mais dans mon âme, est-ce que je veux me venger? Non. Alors, vous avez pardonné. Le pardon, c'est dans l'âme, dans la volonté. Je ne veux pas me venger. Mais quand je pense encore aux personnes qui m'ont fait du mal, alors j'ai des ressentiments. Mais c'est sensible. Ce n'est pas dans la volonté. Donc, ne nous inquiétons pas. On a vraiment pardonné. Sans doute, peut-être, il faudra éviter des personnes qui nous ont fait du mal. Parce que justement, à cause de l'oubli qui n'est pas encore bien présent, il peut y avoir eh bien, des sentiments, des envies de vindicte, de vengeance. Donc, par prudence, il est préférable de prendre du recul et donc de la hauteur par rapport à ces personnes, sans doute. Laisser le temps passer. Mais dans l'âme, je ne veux pas me venger. Par conséquent, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Je me rappelle d'un, il y a bien 25 ans, cette histoire qui m'est arrivée aussi. Un fidèle, un brave homme, ne voulait pas se confesser. Par conséquent, ne voulait pas communier. Il me disait, voilà, il y a tant de temps, quelqu'un m'a fait à ma famille une histoire pas possible et j'ai du ressentiment. Je ne peux pas même réciter Notre Père. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je bloque à ce moment-là. Donc je ne peux pas réciter Notre Père. Et je lui disais, pardonnez, est-ce que vous voulez vous venger? Non, mais je n'oublie pas. Il a des plusieurs années à ne pas vouloir se confesser. Finalement, à l'aube de sa mort, il a fini par se confesser. La grâce du bon Dieu a atteint son âme profondément. Il a fait une belle mort. Mais il bloquait, voyez. Il ne comprenait pas la différence entre le pardon et l'oubli. Notre Seigneur Jésus-Christ a pardonné de toute son âme à ses bourreaux, aux pécheurs. Il pardonne aux larrons repentants. Il pardonne et il lui donne du surcroît le ciel tout de suite. Au jour du même, tu seras avec moi en paradis. Il lui a pardonné entièrement. Quand bon Dieu pardonne, il oublie. Toute faute pardonnée est, de la part du bon Dieu, oubliée. Et le démon ne pourra jamais reprocher à l'heure de notre mort, au jugement particulier, telle ou telle faute qui est pardonnée. Parce que quand le bon Dieu pardonne, il oublie au même moment. C'est divin, évidemment. C'est divin. Mais comme nous sommes enfants de bon Dieu, tâchons de l'imiter le mieux possible ou le moins mal possible. Voyez. La grandeur du pardon divin. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans Notre Père, a formulé 7 demandes. La 5e est très importante. le pardon des offenses. Après avoir donné la gloire au bon Dieu, que son nom soit sanctifié, que son règne arrive, ce pain quotidien, c'est non seulement le pain matériel, mais également et avant tout le pain spirituel, les grâces nécessaires pour notre salut, le pain également eucharistique, le pain quotidien. Et après ce pain quotidien, le pardon des offenses. Parce que pour pardonner les offenses, on a besoin de ce pain quotidien. Ce pain quotidien, comme je viens de le dire, c'est plusieurs choses. Ne l'oublions pas, la grâce quotidienne. Comme dira notre Seigneur Jésus-Christ à Saint Paul, ma grâce te suffit. C'est grâce que le bon Dieu communique à nos âmes au compte-goutte. Mais ce n'est pas que du compte-goutte. C'est des grâces abondantes pour nous dire que les grâces, elles sont bien présentes pour nous sanctifier. Et dans les moments difficiles, où nous voudrions nous venger peut-être, avoir du ressentiment et ressasser des pensées qui ne sont pas charitables vis-à-vis du prochain, eh bien ce pardon des offenses, c'est une grâce que le bon Dieu nous donne à chaque instant. Ainsi, demandons au bon Dieu de vivre intensément de cette prière du Notre Père. Rendez-vous compte, notre Seigneur Jésus-Christ n'a formulé qu'une seule prière. Quand les apôtres lui demandent « Maître, apprenez-nous à prier. » On ne sait pas prier. On ne sait pas quoi dire au bon Dieu. Nous sommes comme les apôtres, comme les disciples. On ne sait pas comment prier. On ne sait pas quoi dire au bon Dieu. Récitons souvent sur Notre Père. Ces sept demandes, elles sont parfaites. Elles sont plénières, elles apportent beaucoup de paix à l'âme, parce que c'est une nourriture pour notre vie chrétienne. Ainsi, demandons au bon Dieu de vivre de cette charité. Et puis, je voudrais vous lire encore une autre citation, c'est Don Guilherand, à Chartreux. Belle citation, surtout devant de pardonner. Je le cite et ça sera ma conclusion. La charité, dit-il, vous fait un devoir de pardonner. Vous le faites, c'est bien. La prudence vous commande des précautions que vous croyez nécessaires. Prenez-les simplement dans toute la mesure utile. Cependant, si la grâce vous demande tôt ou tard de passer l'éponge sur ce passé pénible, suivez la grâce. Les saints l'ont fait et s'en sont trop bien trouvés. Il y a une prudence supérieure à celle des hommes, qui ne la comprennent pas, tout d'abord, et qui finissent par reconnaître avec étonnement que c'est elle qui avait raison. Cette prudence, d'en haut, dispose d'une lumière à elle que vous connaissez. C'est la sagesse dont parle saint Augustin. Je ne serais aucunement étonné si votre grand saint voulait vous élever jusque-là. Quoi qu'il en soit, gardez la paix, qui est le fruit de la sagesse en son plein épanouissement et qui commence à se former dans les âmes appelées à ce sommet. Gardez-la, ou mieux, croyez que vous la gardez. Nous nous faisons en général de grandes illusions à cet égard. Nous confondons ne pas avoir la paix avec ne pas avoir la paix qu'on a. Quand la sensibilité est en tempête, nous voyons plus que la tempête, parce qu'elle occupe toute la part de nous-mêmes dont nous avons conscience. Cela ne signifie pas que nous avons encore la paix de l'âme, mais seulement la conscience de cette paix. Mais pour cela, mais cela suffit pour que ces états soient très pénibles. J'ai l'impression que c'était en général votre cas, aux heures d'épreuve. Une sensibilité secouée qui vous fait dire « je n'ai plus la paix », tandis qu'il faudrait dire « je ne perçois plus ma paix ». Une différence entre percevoir et avoir. Il faut s'habituer à croire à la paix quand on n'a pas conscience d'une faute grave, car la paix c'est Dieu présent. Et quand nous ne l'avons pas offensé gravement, il est là. Or, pour l'offenser gravement, il faut le vouloir. Vous désirez vivement rester dans sa grâce et y croître, voilà pourquoi vous souffrez. Bonne souffrance qui est une grande grâce. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.